République, le métier de professeur, avec Mara Goyet et Patrice Jean. Dernier roman paru de Patrice Jean s'intitule « Rééducation nationale ». Mara Goyet vient de publier « Finir prof, peut-on se réconcilier avec le collège ?» Patrice Jean et Mara Goyet ont en commun d'être tous deux professeurs. Lui de français au lycée, elle d'histoire et géographie au collège. Et jeunes encore, ils ont déjà de l'expérience, du métier, de la bouteille. Ils ont vu défiler des classes. Mes deux invités peuvent donc faire un bilan. Quel est-il ? Comment définiriez-vous votre rôle, votre travail, votre engagement, votre mission, Mara Goyet ?
Bien, mon travail, c'est d'être entre quatre murs avec 30 adolescents captifs, d'avoir des programmes à transmettre et qui me plaisent, et une culture à transmettre à laquelle je suis très attachée, et de tout faire dans les limites de la légalité et de la bienséance pour que ça marche. Voilà, je suis prête à tout pour qu'ils apprennent, ils retiennent et ils sachent se servir de ce que je leur apprends.
C'est une belle définition, claire, nette, précise. Patrice Jean, à votre tour.
Je suis d'accord avec ce qu'a dit Mara Goyet. Sauf peut-être sur le prêt à tout, mais oui, ma mission c'est de transmettre un certain nombre de savoirs qui sont liés au programme, beaucoup, je remets pas forcément en cause, et puis peut-être de donner le goût des livres, de la littérature, de les éveiller.
Très bien. Alors, justement, prêt à tout, qu'est-ce que cela veut dire, Mara Goyet ?
Alors prêt à tout en langage de prof, c'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire, c'est frôler les écueils de la démagogie. Le gros mot terrible, c'est-à-dire prête à être sympa, prête à faire un détour pour arriver au but, prête à m'intéresser vraiment à leur culture et à ce qu'ils savent pour parvenir à mes fins, c'est-à-dire ne pas avoir peur des élèves, de leur monde, et prête à imaginer, bricoler, improviser pour transmettre.
D'un autre côté, Mara Goyet, vous dites « je travaille entre quatre murs ». Et cette phrase m'a fait penser à une réflexion d'Alain dans ses propos sur l'éducation, qui, à mes yeux, n'ont pas vieilli, je peux me tromper. Il dit, je crois, l'école est un lieu admirable. J'aime ces murs nus et que les bruits extérieurs n'y entrent point. Donc, il prend très au sérieux la notion de mur. Or, vous semblez dire, Mara Goyet, que les bruits extérieurs doivent entrer à l'école, bien compris.
Non, d'abord les murs sont poreux aujourd'hui, et c'est pas qu'ils doivent, c'est qu'ils entrent. Et que plutôt que d'être dans une posture obsidionale à se braquer dès que le monde extérieur entre en classe, ce qui m'amuse et ce qui m'intéresse, et ce à quoi je crois, c'est une certaine capacité à s'en servir, à les utiliser et à ne pas être contre. C'est ça. Et puis les murs nus, moi, ma salle, c'est un peu le palais du facteur cheval. Donc non, je crois que la nudité des murs, c'est pas un absolu.
Et vous, vous seriez plutôt d'accord avec Alain ou avec Mara Goyet ?
Plutôt d'accord avec Mara Goyet parce que, de toute façon, les élèves, quand ils pénètrent dans la classe, ils emportent avec eux dans leur esprit, dans leur façon d'être, le monde extérieur. Par conséquent, ils sont pas comme ils viennent pas vierges. On est obligé de faire avec ce que sont les élèves pour les mener ailleurs, peut-être. En ce cas-là, je suis prêt à tout pour les amener à Baudelaire ou Flaubert.
Alors oui, mais d'un autre côté, ils viennent avec ce qu'ils ont, ce qu'ils savent, ce qu'ils aiment. Mais ils viennent aussi avec leur téléphone portable. Et là, je vous pose la question. À l'un et à l'autre, qu'est-ce que vous faites de ça ? C'est-à-dire, est-ce que vous leur demandez de déposer leur portable avant d'entrer en classe ? Ou est-ce que vous vous résignez à ces écrans, à la possibilité qu'ils les regardent en dessous de leur pupitre pendant le cours, ou voir est-ce que vous en servez pendant les cours. Mara Goyer.
Alors le portable est strictement interdit dans mes cours. S'il le consulte, c'est en cachette. Et en revanche, parfois, je leur dis, allez, sortez votre portable, on va faire une recherche sur Google ou je sais pas quoi. Et là, ça crée mais une onde de bonheur et de joie chez les élèves. C'est incroyable.
Et vous,
bah, ils sont pas interdits dans mes cours. Mais le portable, c'est vraiment quelque chose de terrible dans le sens où ils sont toujours reliés à l'extérieur, justement. Auparavant, ils rentraient dans la classe. Et puis on fermait la porte et au moins pendant une heure, ils étaient dans cette classe. Aujourd'hui, de toute façon, dès qu'il y a une pause, etc., ils se précipitent pour regarder leur portable et c'est assez frappant. Parfois, ils ne se parlent même pas entre eux. Enfin, ils sont tous sur leur portable et je leur dis, mais discutez, bavardez.
Ah, maintenant, on sollicite le bavardage.
Voilà, c'est ça. Parce qu'ils sont, comme reliés, comme une sorte de bulle avec leur portable. Et ce qui fait qu'ils ne coupent pas, quoi. Enfin, c'est vraiment dommage.
Mais c'est très différent au collège. Hein. Au collège, ils n'ont pas droit au portable de la journée. Donc, ils sont dans une phase.
C'est dans votre collège?
Non, dans tous. Dans tous.
Ah oui, d'accord.
Non, le portable n'est pas autorisé. Donc, ils sont dans un état de manque et de sevrage dramatique. Et on les voit même, pour garder le geste, manipuler leur calculatrice pour faire comme s'ils téléphonaient ou comme s'ils écrivaient des messages, tellement ils sont en manque. Ça, c'est quelque chose de très nouveau. C'est le manque de portable chez les élèves qui les stresse terriblement. Hein.
Ça les stresse, mais qu'est-ce qu'ils regardent sur leur portable? Pourquoi ils sont-ils attachés? Est-ce qu'il s'agit pour eux de communiquer avec d'autres garçons et filles de leur âge? Est-ce qu'il s'agit de voir défiler des petits programmes, des petites pastilles? Par exemple, on parle beaucoup, moi j'y connais rien, donc vous allez m'éclairer, de TikTok. Il paraît que TikTok a la faveur des adolescents. Alors dites-moi, qu'est-ce que c'est exactement que TikTok? Est-ce que vous savez ça, Mara Goyer?
Non, pas très bien.
Ah bon, pas très bien.
Moi, je peux répondre, parce que je vais sur TikTok
très bien.
De temps en temps. C'est des petites vidéos, ça peut aller de 10 secondes à 10 minutes, je crois, le maximum, sur tous les sujets possibles. L'avantage, c'est qu'on peut scroller. Alors, scroller, ça veut dire qu'on peut passer de manière... On met le doigt à l'index sur l'écran et on passe à la vidéo suivante très facilement.
Ah d'accord.
Et par conséquent, dès que quelque chose les ennuie un peu, ils passent à la vidéo suivante. Et il y a des algorithmes qui repèrent les vidéos qu'ils aiment bien et qui leur proposent les programmes.
Et est-ce que justement, cette rapidité, cette facilité a des répercussions?
Bah, peut-être sur la concentration, parce que eux, ils peuvent pas nous passer comme ils font avec l'écran. Quoi. Je leur dis parfois, vous pouvez pas me scroller là, les gars.
Ah, vous pouvez pas vous scroller.
Donc,
c'est une difficulté supplémentaire pour vous. Vous seriez d'accord avec ça?
Oui, les problèmes d'attention et de concentration, on est obligé d'être mille fois plus passionnant qu'avant. Avant, on pouvait être chiant pendant une heure, deux heures. Là, c'est impossible.
Ne dites pas chiant, dites ennuyeux.
Excusez-moi, monsieur
Finkielkraut. Pardon, monsieur le vieux schnock. Non, mais ce que vous dites quand même est très intéressant, parce que Le Monde a publié il y a quelques jours une grande enquête sur TikTok, justement. Et annoncé en première page, avec un dessin, TikTok, l'algorithme qui bouscule la culture. À l'intérieur, c'est qui secoue la culture. Donc, c'est un éloge de TikTok face à une culture académique, etc., traditionnelle, hiérarchique. Je vous en parle parce qu'il me semble que le monde environnant ne vous facilite pas la vie. Vous êtes en concurrence avec les écrans, avec ces plateformes. Elles vous obligent à être particulièrement intéressant, mais tout cela dans un monde dont l'élite elle-même vous dit que TikTok c'est formidable, ça bouscule la culture. Est-ce que vous avez à souffrir vraiment de cet environnement, de cette élite anti-élitiste même?
Parfois, je pense que des élèves sont très sensibles aux discours qu'ils peuvent entendre sur Internet, sur TikTok et qui nous concurrencent. D'autres sont au contraire quand même attentifs à ce qu'on va pouvoir leur dire. Ce qui est certain, c'est que, enfin, concernant ma discipline, je pense vraiment que la littérature a perdu un peu de son charisme. Donc.
Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous lisez le journal de référence et tout d'un coup, il vous dit TikTok, c'est formidable, ça vous secoue, ça vous bouscule. Il me semble que vous pouvez vous sentir abandonné ou trahi, non pas par les élèves eux-mêmes, mais par ce discours d'accompagnement. Mara Goyer.
Alors d'abord, moi, je me sens pas du tout en concurrence avec TikTok.
Bah si, la preuve, vous dites que vous êtes obligé d'être particulièrement intéressante.
Non. Bah oui, ça c'est bien, c'est plutôt un progrès,
oui,
non, je trouve ça bien, de ne pas être fastidieuse. Vous avez vu, je fais des progrès dans mon vocabulaire. On n'est pas en concurrence, c'est vrai que les élèves ont une culture éclatée. Il y a des petits bouts de savoir ici ou là. Et justement, notre métier aussi maintenant, c'est de hiérarchiser ce qu'ils apprennent, de le mettre en perspective. Et je trouve ça très intéressant et très amusant. Donc non, j'ai pas l'impression que... on m'empêche de faire mon travail, ni de pas être soutenue pour ça. Simplement, il faut apprendre à se servir de ces petites scories culturelles pour les organiser.
D'accord, mais je vais quand même enfoncer le clou. Dans votre roman, qui est une satire Patrice Jean, Rééducation nationale, vous relatez la visite d'un inspecteur. Il rend visite à votre héros, Bruno Giboire, si mes souvenirs sont exacts, qui est un professeur particulièrement zélé, qui est à la poursuite de l'idéal, pour reprendre le titre d'un de vos romans. Et l'inspecteur, lui dit, c'est un peu comme le monde, si vous voulez, il est cet esprit-là. Il lui dit, il faut manier l'objet livre avec prudence, ne pas le mettre sur un piédestal, ne pas tomber dans l'élitisme. C'est le risque de notre discipline, croire que la littérature est plus importante que d'autres formes d'expression artistique, comme le rap, les slogans publicitaires, les tweets, les slams, les tracks, les tags, le hip-hop, l'improvisation théâtrale, le mime, les cracheurs de feu, la coiffure, la mode, le piercing, tout ce qui enrichit l'existence. La vie est une fête, j'aime quand les élèves s'amusent, je n'aime pas quand ils s'ennuient sur des textes pour la plupart concoctés par des mâles blancs de l'Ancien Monde, et un peu plus tard, il parle de ces Claudel, Valéry, Giraudoux, Mauriac, Martin Dugard, Colette, Bernanos, Barret, Gide et même Proust. Ça vous a un côté suranné, vieille France, poudre de riz, broderie de grand-mère, ombrelle, duchesse, colonie, ça pue le renfermé, l'entre-soi, le petit doigt levé, le chien-chien, de l'air, j'y boire, de l'air. Alors, est-ce que cette visite a réellement existé? Est-ce que ça traduit une évolution de l'institution elle-même qui préfère s'aligner sur TikTok vu par le monde que de défendre une certaine verticalité de la culture?
Alors, bon, la visite telle qu'elle, je l'ai imaginée, mais elle s'appuie sur des discours que j'ai pu entendre. Moi, j'ai pratiqué l'UFM, des choses comme ça, où on insistait beaucoup sur l'idée qu'il fallait pas faire de la littérature quelque chose de supérieur, fallait éviter l'élitisme de ce que représentait la littérature, fallait comme si le livre allait faire peur aux élèves et qu'il fallait lui donner un aspect sympa, sympathique. Alors qu'un inspecteur tienne ce discours, là j'ai poussé un peu pour faire rire, si vous voulez. Moi, j'ai quand même écrit une fiction, si vous voulez, et mon but c'était de, comment dire, pas forcément de réfléchir à ce que j'avais vécu, mais de m'amuser de ce que j'avais pu entendre et vivre. Comme un enfant jouerait avec ses petits soldats, moi j'ai pris les collègues, les inspecteurs, le proviseur, et j'ai joué avec eux.
Et est-ce que vous avez rencontré déjà dans votre vie de professeur des inspecteurs qui vous exhortaient à aller voir ailleurs et à vous imprégner de cette culture-là, ou bien
en histoire géographie, c'est pas l'ambiance. Hein.
C'est pas l'ambiance.
Non, pas du tout.
Pourtant, en histoire, il y a des polémiques. Je sais pas si ça touche le collège autant que le lycée, contre l'histoire chronologique, pour une histoire thématique, pour une histoire aussi qui soit plus ouverte à l'altérité, etc. Pour une histoire moins nationale, voire passe nationale, voire antinationale. Est-ce que vous rencontrez ce genre de problématique, Mara Goyer ?
Ben, pas tellement, parce que, ça existe évidemment, mais c'est l'écume idéologique qui flotte au-dessus du collège. Mais dans un collège, on a des programmes, on a une liberté pédagogique, on les fait comme bon nous semble. Mais non, en fait, je crois qu'en histoire, on a déjà, on est allé au bout de beaucoup de délires, et donc là, c'est assez raisonnable.
Alors, autre chose. Voilà, une question qui me vient aussi de la lecture du livre de Patrice Jean, Rééducation nationale. L'une des collègues de Bruno Giboire, prénommée Nadège, très investie aussi dans la pédagogie, dit que ça suffit avec ceux qui croyaient qu'il n'y a pas d'autre méthode d'enseignement que le cours magistral. Et Bruno Giboire communie avec elle dans cette critique du cours magistral. Et on voit d'ailleurs l'inspecteur dire qu'il est très bon de travailler en îlot. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire travailler en îlot? Première question. Et deuxième question, il est une époque, sans doute révolue, où cours magistral, c'était un pléonasme. Aujourd'hui, il semblerait que ça devienne un oxymore. Alors, est-ce le cas? Et si tel est le cas, la transmission y a-t-elle gagné?
Alors, des cours en îlot, c'est des cours en groupe, si je dis pas de bêtises, parce que j'en ai vraiment fait, mais donc c'est des élèves qui sont 3 ou 4 et qui, il y a un rapporteur, je crois.
Enfin,
je
on déplace pas, les tables surtout, c'est ça l'essentiel.
Les tables, voilà.
Ils sont bonifiés.
Îlots bonifiés, oui. Ouais. Je sais qu'un collègue disait, un cours en îlot, il y a Robinson qui travaille, il est aidé par Vendredi, et il y a les deux palmiers qui sont là, qui font rien.
C'est exactement ça.
C'est ça, je crois. Et alors, pour le cours magistral, oui, alors moi, quand j'étais dans les instituts de formation, on m'expliquait qu'il fallait absolument ne pas faire de cours magistral. En soi, je le comprends presque, parce que dès que je parle 10 minutes, un quart d'heure, je sens qu'il y a un décrochage de la part des élèves. Cela dit, ce que je reprocherais à cette volonté de ne pas faire de cours magistral, ou disons à la pédagogie, au pédagogisme, c'est de penser qu'il y a des méthodes infaillibles pour transmettre des savoirs, alors que je pense que ce n'est pas le cas et que l'enseignement est une sorte d'art. Il faut, d'ailleurs, ce que vous dites dans votre essai, rebondir, il faut savoir prendre au mot un élève. Je pense que de temps en temps, pourquoi ne pas faire un cours magistral? Il m'arrive de le faire. Ou des cours en groupe. Enfin, il faut. Mais ce qui est pour conclure, je vais reprendre ce que j'ai dit. Je remarque que le cours magistral a du mal à passer avec les élèves, et je le regrette. Moi, je n'aimerais faire que ça au fond. C'est-à-dire arriver en cours, parler de ce que j'aime, ça. Et je sais que c'est extrêmement difficile.
Pour vous aussi, Marie Goyer?
Pas du tout. Mais c'est vraiment très différent, un élève de collège d'un élève de lycée. C'est vraiment pas du tout. Ils sont encore frais, curieux, enthousiastes. L'essentiel, c'est pas faire toujours la même chose. C'est-à-dire que moi, je fais du cours magistral, je fais du cours dialogué, je fais du cours silencieux. Ils travaillent en groupe ou pas. Enfin, il faut qu'un cours, c'est comme un roman, il faut qu'il y ait une progression dramatique, il faut qu'il y ait des foutus quarts d'heure, il faut qu'il y ait des moments incroyables, des accélérations, il faut que ça soit varié, c'est surtout ça. Mais il y a le plus terrible, c'est les gens qui ont des méthodes et qui les appliquent de manière non vivante.
Vous n'avez jamais eu d'inspecteur qui vous reproche de faire parfois un cours magistral?
Ça non,
c'est jamais arrivé?
Non, jamais.
Jamais. Alors, mais d'un autre côté, Mara Goyet, vous dites que l'école, vous nous invitez à nous réconcilier avec le collège, et aussi, vous dites que l'école doit se réconcilier avec la vie. Alors, c'est quand même une autre talanité de celle de vos précédents livres, notamment Tombeau pour le collège. Parce que vous dites, dans ce livre, parfois les cours ressemblent à des sortes d'orgies physiologiques, manger, aller aux toilettes, prendre une sucette, aller à l'infirmerie, se balancer, être affalé sur sa chaise, renifler, tousser, bâiller, parfois péter, parler, commenter, tiens un avion, et j'ai plus d'encre, on a français à 14h, où j'ai mis mon crayon, sentir, toucher. Le corps, ce grand oublié des classes, sagement assises et silencieuses, revient au galop. Cette propension à mâcher, sucer, cracher, déglutir, parler est terriblement troublante à observer. Parce que la vie, en effet, elle revient, elle vient dans les cours sous la forme de la très brutale de la vie biologique ou de la vie physiologique.
Oui, oui.
Est-ce que c'était vrai particulièrement lorsque vous étiez en zone d'éducation prioritaire, ou est-ce que ça reste vrai maintenant? Vous enseignez dans un collège, je crois, au centre de Paris, Mara Goyer.
Alors, non, c'est tout à fait la même chose, mais je le dirai plus de la même manière. Là, je vois que dans mes œuvres de jeunesse, j'étais très extérieure et je regardais ça. En fait, on dirait l'enfance de Gargantua quand il se roule partout, etc. Il y a quelque chose dans mon regard qui a en tout cas profondément changé. Et je sais maintenant observer ce genre de choses. J'ai plus ce regard si extérieur. Maintenant, je sais faire. C'est l'expérience qui change.
Donc vous savez faire avec ça. Vous êtes obligé de faire avec quand même.
Non, mais maintenant je sais leur demander d'être calme, de se détendre, de se concentrer. Je vois plus ça comme une fatalité ni comme une agression. Et du coup, ça arrive beaucoup moins.
Vous heurtez vous-même au lycée à ce genre de problème, à cette éruption de la vie au sens le plus élémentaire du terme?
Ça peut arriver, oui, ça peut arriver.
Patrice Jean.
Oui. Dans l'ensemble, je trouve que les élèves sont assez calmes. Et je me demande d'ailleurs depuis le confinement, il n'y a pas quelque chose qui s'est passé. Enfin, je crois que vous dites ça dans votre livre. Je les trouve même apathiques, souvent.
On n'est jamais content.
Mais c'est étrange que vous dites, parce que on voit, dans la rubrique inoffensive des faits divers, on apprend presque tous les jours qu'il y a eu une agression au couteau, une rixe mortelle devant les écoles, lycées ou collèges. Donc la violence, quand même, semble très présente. Et c'est pas un problème que vous rencontrez, ni l'un ni l'autre, Mara Goyer?
La violence entre élèves, si, mais moi, comme vous l'avez dit, je suis dans le centre de Paris, c'est pas très très animé. Mais oui, il y a des faits divers et c'est très inquiétant. Mais c'est vrai que c'est le manque de vitalité qui est le plus troublant depuis le confinement.
Depuis le confinement. Ouais. Ah oui, pour vous aussi.
Oui, la violence entre élèves, dont on n'a pas toujours conscience d'ailleurs. Parfois, ça nous revient aux oreilles. Mais c'est l'impression que j'ai de quelque chose d'un peu apathique, ils ont l'air ennuyés.
Ils attendent que ça se passe.
C'est ça, ils sont très polis, donc ils attendent que... J'ai fini de faire mon cours. Je les fais participer. Hein. Je fais tout effectivement pour les réveiller, pour les intéresser. Mais je sens une résistance et on en parlait tout à l'heure. Et dès qu'ils sont dans le couloir, alors au lycée ils ont le droit d'avoir leur portable, pof. Et là ils renaissent comme s'ils avaient été en manque pendant une heure et que le portable leur permettait de refaire surface.
Alors j'insiste. Au début de votre livre, Mara Goyer, vous dites que vous êtes optimiste, que vous avez choisi l'optimisme. Et la question que je vous pose, c'est qu'est-ce qui vous rend optimiste? Le niveau des élèves, leur maîtrise de la langue, la civilité qui aurait fait, après une longue absence, son retour dans les classes. Qu'est-ce qui nourrit votre optimisme, Mara Goyer?
Alors, plusieurs choses, la liste est longue. D'abord, je crois que j'ai un tempérament joyeux, et ça, c'est pas...
Ah mais ça, la gaieté peut se marier avec le pessimisme.
Totalement.
Aussi.
Il y a la curiosité des élèves, je trouve ça merveilleux, mais tous, toujours, tout le temps, où qu'on soit, ils sont curieux. Vous leur parlez de l'iconoclasme, ils sont à fond. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve incroyablement réjouissant. Ensuite, il y a le fait que la culture, ça marche. Voilà, elle est pas en danger, ça marche, on peut la transmettre. Et sans la dévaluer, ni la travestir, on peut la transmettre. Et voilà, ça me rend très optimiste. Oui, le monde autour est sinistre, mais les jeunes enfants de collège me rendent optimiste. Oui.
Et vous, vous sentez-vous optimiste?
Un peu moins, je pense. J'ai des élèves au lycée, alors il y a peut-être quelque chose qui se passe là en 2 ou 3 ans, parce que moi je les trouve pas très curieux et je les sens au contraire. J'aimerais bien qu'ils me posent des questions, qu'ils viennent me voir pour me demander quels livres ils peuvent lire, ou qu'ils me disent « Ah, vous avez parlé de tel auteur, je suis allé voir », etc. Et c'est quand même assez rare, ça. Je pense que les moi j'ai fait 3-4 ans de collège, donc il y avait effectivement une vitalité au collège, hein, une curiosité qui... Alors c'est vraiment là, je parle de mon expérience personnelle, j'en fais pas une loi, qui peut-être se perd un peu à 15, 16, 17 ans, 18 ans.
Alors vous dites Mara Goyet, la culture, ça marche. Mais quelle place lui fait-on aujourd'hui dans la transmission ? Vous dites aussi que vous êtes fatigué du débat entre républicains et pédagogues, et pédagogistes, je sais pas. Je ne veux pas relancer ce débat, mais je pense que la véritable opposition met aux prises ce qu'on peut éventuellement appeler les républicains et les hyper-démocrates. Les hyper-démocrates, c'est ceux qui veulent étendre la démocratie à tous les domaines de l'existence, notamment l'école. Et donc, eh bien, chacun, pour un hyper-démocrate, doit pouvoir exprimer ses opinions comme il l'entend, et justement, le privilège de la haute culture doit être à l'intérieur même de l'institution contestée, notamment parce que cette haute culture bénéficie avant tout aux héritiers, comme l'a dit Bourdieu, et donc moins on se focalise sur elle, plus les élèves défavorisés ont la possibilité de s'exprimer et plus on peut combattre les inégalités sociales et même scolaires. Ce discours est très fort, très présent aujourd'hui et peut-être est-il pour quelque chose dans ce que on est obligé de constater, c'est-à-dire une baisse assez spectaculaire du niveau. Mara Goyet.
D'abord, il y a des, sans vouloir être hyper démocrate, en sixième, par exemple, j'ai des élèves qui arrivent, qui ont lu Michel Strogoff, et d'autres qui n'ont même jamais entendu parler du Petit Chaperon Rouge. Donc voilà, il y a quelque chose à faire. Alors après, le but, c'est de faire avancer tout le monde et de faire en sorte que tout le monde participe à la haute culture. Et voilà, c'est ça le travail. C'est pour ça que je suis prête à tout. Donc, moi, je suis les deux. À la fois, je suis très démocrate et je suis très, très sensible aux inégalités sociales. Et en même temps, je vais pas brader ce qui me semble le plus important et le plus beau pour ça, mais je vais le transmettre. Voilà.
Non, l'hyper-démocrate, c'est celui qui met tout au même niveau. C'est-à-dire,
ça, non.
Chacun vient avec son expérience, l'enseignant comme l'apprenant, et les privilèges anciens doivent être remis en cause. C'est ça que j'appelle l'hyper-démocrate, si vous voulez. Et donc, effectivement, l'école ne peut pas être un lieu démocratique, parce qu'on ne peut pas simplement y débattre des opinions à égalité. Il y a une hiérarchie entre l'élève et le professeur, et aussi entre la culture de l'élève et la culture dont l'institution est porteuse. Si, au nom de la démocratie, cette hiérarchie est remise en cause, ça peut effectivement, mettre l'école elle-même en grande difficulté.
Mais le collège n'est pas hyper démocrate, il n'est pas assez démocrate. C'est-à-dire que c'est resté le petit lycée dans lequel on a mis tous les enfants, et au contraire, il y a une sorte de je sais pas d'impolitesse à accueillir les enfants sans faire attention à ce qu'ils savent, d'où ils viennent. Donc non, je pense qu'on n'est pas assez démocratique, mais c'est vrai que c'est pas le contenu culturel qui a démocratisé, c'est au système scolaire.
Patrice Jean, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ou pour dire les choses autrement, au nom justement de cette exigence démocratique, de cette exigence d'égalité, on a remise en cause l'idée même de sélection. Et là, je vais vous lire une phrase de Laurent Jaffrault et Jean-Baptiste Rosy dans leur livre « L'école désœuvrée » qui me semble très juste. « On accueille des élèves plus faibles dans des classes plus avancées, puis, dans un second temps, on révise à la baisse les exigences en se réglant sur leurs capacités. » Et la sélection arrive maintenant à Parcoursup, qui est l'objet de très nombreuses critiques, puisque le bac n'est plus du tout sélectif, on le sait très bien. Mais vous voyez, non, ça crée un problème dont je ne vois pas comment on va sortir, dès lors précisément que c'est par le refus de la sélection qu'on croit pouvoir combattre les inégalités sociales et les inégalités scolaires. Patrice Jean.
Oui, alors effectivement, je pense qu'il y a eu peut-être une baisse des exigences. C'est très compliqué parce que dans les programmes, par exemple en français, hein, on est revenu à des programmes très, très exigeants, avec peu d'idéologie. Par exemple, là, il y a un programme qu'on est obligé de suivre. Mais je crois que la sélection se fait après, d'une certaine manière. Donc, malgré tout, il y a un système sélectif qui est là, qui existe.
Et pourquoi ne se fait-elle plus au collège et au lycée? Pourquoi, avec l'ambition du collège unique et du lycée, a-t-on éliminé la sélection? Est-ce que quelqu'un y gagne?
Je pense que c'est pour ne pas froisser justement certains élèves. On les fait passer dans la classe supérieure. On dit bon, ils vont s'en sortir.
Oui, redoublement. Il y a des offenses.
On va leur permettre du soutien et puis tout le monde passe et ça donne parfois l'impression que, d'ailleurs les élèves me le disent, que c'est facile, ils ne travaillent pas et puis c'est pas forcément très très bien, oui.
Et vous, Marie, qu'est-ce que vous pensez de ça?
J'ai un petit peu du mal avec l'idée que de sélection, de tri, que certains ralentiraient les autres. Enfin, je trouve que j'aime pas du tout cette vision de l'école. En revanche, c'est vrai que les élèves sont pas toujours au courant de leur niveau réel et qu'ensuite, c'est très très dur quand ils veulent devenir chirurgien cardiaque alors qu'ils ont 8 de moyenne partout. Mais ça, c'est un problème de vérité sur ce qu'ils peuvent faire ou pas faire. Mais je sais pas, cette idée de sélection, je trouve qu'elle est... Non, elle est pénible. On pourrait parler d'orientation sans que ça soit hypocrite, mais voilà.
Mais pourquoi est-elle pénible? C'est-à-dire que l'ambition de l'école, c'était l'égalité des chances. Au départ, c'est ça la République. Mmh. On remplace la naissance et la fortune par les talents. Ou le mérite, c'est ça la méritocratie. Bon, donc on sélectionne, mais sur des critères qui sont ceux du mérite. Mais maintenant, c'est la sélection elle-même qui semble cruelle. Il y a une cruauté de la sélection, on est gêné par cela, comme une sorte de vestige médiéval. Mais je répète, qu'est-ce qu'on y gagne ?
Tout d'abord, les élèves brillants scolaires, ils restent tout autant brillants et scolaires aujourd'hui. Ça, pour le coup, pour les meilleurs élèves, je ne pense pas que le niveau ait baissé. Ensuite, oui, il y a le mérite, mais qu'est-ce qu'on fait de ceux qui n'ont pas de mérite? Enfin, on en est responsable aussi. C'est pas une course où on va laisser les gens derrière, ce sont des enfants quand même, et on en est responsable. Et à mon avis, c'est ça, la grandeur de l'école, ça serait d'être responsable de tous les élèves, même de ceux qui ne font rien, qui sont complètement nuls, ou qui n'ont pas de mérite.
Est-ce qu'on assume cette responsabilité?
Ben non.
Précisément en les faisant passer dans la classe supérieure, sans aucune considération pour les notes qu'ils ont obtenues, et en considérant le redoublement, je le disais, comme une offense, comme une insulte, avec en plus, et ça, on peut en parler, la pression grandissante des parents d'élèves, parce que dans son livre, dans ses propos sur l'éducation, et cet éloge des murs, eh bien, Alain tient à préciser que, précisément, les parents n'ont aucun rôle à jouer dans l'école. Et je me souviens, quand j'étais élève, c'est-à-dire dans la préhistoire, les parents allaient rendre visite aux professeurs, mais ils y allaient avec le trac pour leur demander si leur fils ou leur fille était d'un bon niveau et travaillait bien. Il n'y allait pas pour récriminer. Or, aujourd'hui, il semblerait, vous le dites d'ailleurs, que les parents fassent pression sur les élèves, et comme le contrôle continu va s'installer maintenant, même pour le bac, eh bien, si un élève obtient une mauvaise note, il arrive très souvent que le père ou la mère arrive en protestant auprès des professeurs. Donc voilà, les murs sont poreux, mais la présence des parents d'élèves, qui s'est accentuée, vous le dites, avec le Covid, c'est-à-dire l'enseignement virtuel, les parents sont dans l'ombre, les parents sont là.
Oui, mais sympathiquement, hein, souvent.
Hein?
Souvent pour se marrer ou voir.
Oui, souvent pour se marrer.
Ils ont appris des choses, les parents, pendant le confinement.
Peut-être, mais
le niveau monte.
Ça change complètement la situation,
Mara Goyer. Enfin, je suis d'accord avec vous, mais le système scolaire ne joue pas le jeu. C'est-à-dire que, oui, les parents pourraient se détendre avec les notes de leurs enfants. Mais on est dans un système où chaque note compte en troisième et en terminale. Enfin, ça rend fou les parents. Et les enfants, c'est-à-dire un enfant, je sais pas, il fait sa crise d'ado en troisième à Paris, il aura pas le lycée qu'il souhaite. Donc c'est encore une fois tout ça, c'est l'égalité des chances, mais dès la maternelle ça va pas et rien n'est vraiment fait pour rattraper les inégalités. Donc c'est surtout le système scolaire qui ne joue pas le jeu de l'égalité ni de l'exigence dans tout ça.
Moi je pense que qu'en réalité, j'étais un peu pessimiste, mais que les choses sont presque jouées avant même que les enfants entrent à l'école. C'est-à-dire que selon la classe sociale à laquelle ils appartiennent, selon le fait que les parents les auront éveillés ou pas, et on n'arrive pas à l'école à remonter le courant. Et je ne sais pas si l'école ne peut le faire. Je crois que c'était Bourdieu qui parlait de bonne volonté scolaire, familiale,
bonne volonté
culturelle peut-être, voilà.
Oui, oui. Il en parlait encore dans Les Héritiers, dans la reproduction. Il a radicalisé son discours, donc il n'y avait plus qu'un arbitraire culturel imposé. Mais la bonne volonté culturelle,
mais
ça m'a beaucoup frappé.
Mais ça, dans les familles, il faut que les parents soient derrière leur enfant pour lui dire, bah voilà, il faut travailler à l'école. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de familles qui eux aussi, avec les années, ont vécu l'échec scolaire, hein, des gens qui ont mon âge, etc., et qui ont un ressentiment envers l'école, qu'ils transmettent parfois à leurs enfants, et ça crée des problèmes pour leurs enfants. Donc l'école fait vraiment ce qu'elle peut, je pense, pour remonter le courant. Et c'est terrible à dire, mais quand les élèves que j'ai dans mes cours, en début d'année, je vois presque ce qu'ils seront en fin d'année. Il est très rare qu'un élève qui avait 5 de moyenne, je sais pas, hein, je dis comme ça, en début d'année termine à 15, quoi. Vous voyez, ils progressent, mais notre rôle est finalement, n'est pas si grand, voilà.
Moi, je crois que l'école ne fait pas du tout ce qu'elle peut. Je crois qu'elle sous-estime ce problème et cette question, et que là, vraiment, c'est scandaleux.
Quelle question sous-estime?
La question des inégalités culturelles.
Alors,
je crois que vraiment ça,
c'est pas assez fait. Alors là, je vais vous énerver, Mara Goyer.
Ah, merci, j'attendais.
Vous attendiez? Je vous avais quand même un peu énervé.
Non, même pas, vous avez...
Même pas,
non.
Même pas, parce que vous mettez quand même un grand souci à ne pas être réactionnaire.
Ben oui, je m'entraîne tous les matins.
Oui, vous entraînez, et vous réussissez d'ailleurs, le livre en témoigne. Alors, deux citations. L'une de Robert Conquest, un grand historien de l'Union soviétique. « Tout individu est réactionnaire sur les sujets dont il est informé. » Bon, je vous le livre, ça va à votre réflexion. Vous avez sans doute trouvé ça bête, mais je vous le livre un truc. Et une autre phrase, là, je vous demande d'y réagir. C'est Jacques Julliard, dans un petit livre qu'il avait publié naguère chez Flammarion, « L'école est finie ». On ne dira jamais assez à quel point le mot d'ordre d'égalité a servi depuis des années de pavillon de complaisance à la destruction des parties saines de notre système éducatif. Or, le but premier de l'éducation n'est pas d'égaliser, mais d'éduquer. Qu'en pensez-vous? Et vous n'avez...
Non, mais je suis entièrement d'accord. Désolée, je suis pas énervée du tout.
Ah mince.
Vraiment. Non, je suis absolument d'accord. Le but, c'est d'éduquer, mais en tenant compte des inégalités. Voilà, ça me semble pas du tout incompatible.
Oui, hein, sauf que quand on dit que le premier but, c'est de lutter contre les inégalités sociales ou scolaires, on oublie que le premier but de l'école, c'est de lutter contre l'ignorance, et à force de vouloir lutter contre les inégalités, on contribue à une baisse générale du niveau, notamment en mathématiques, en français, en langue, etc. Donc voilà, c'est en cela.
Mais c'est peut-être pas la lutte contre les inégalités qui fait baisser le niveau en mathématiques ou en langue. C'est peut-être, je sais pas, des méthodes, des blocages, un manque d'exigence. C'est pas vrai.
Et vous, vous êtes cette question d'égalité, Patrice Jean.
Oui, elle peut avoir des conséquences néfastes, je pense.
Elle peut avoir des conséquences néfastes, c'est quand même un peu votre sujet, parce que...
Non, mais est-ce que vous pourriez dire que je n'ai pas écrit un livre réactionnaire, parce que j'aimerais bien le vendre aussi.
Non, je plaisante. Non, mais il se vendra d'autant plus, hein, je promets.
Ah oui,
promets,
ouais. Oh, arrêtez.
Ah non, non, je vous assure que non.
Non, c'est... Non, mais écoutez, le livre s'intitule « Rééducation nationale hein », et l'intrigue se noue. Ça se passe dans un lycée André Malraux, que vous avez inventé, à Nantes. Le lycée possède une statue Khmer, très belle statue Khmer, dont André Malraux lui-même aurait fait don à l'école. Et le proviseur, je ne sais pas si on dit, oui, a décidé de vendre cette statue de façon à financer l'achat d'ordinateurs, de vidéoprojecteurs et surtout d'un atelier avec affiches, bibliothèque numérique et installation d'artistes, un atelier pédagogique, donc, mais aussi citoyen, consacré aux luttes contre toutes les discriminations ou inégalités sociales, sexistes, racistes et numériques. Un atelier où des élèves apprendraient la vie citoyenne, le respect de l'autre. Ainsi pourrait-on venir en aide concrètement à ceux qui souffrent en France et partout dans le monde. Le lycée se divise entre professeurs réactionnaires qui veulent garder la statue et les professeurs autour de Bruno Giboire avant qu'il ne change d'orientation, si je puis dire, à la fin du livre, et qui veulent, au contraire, assurer cette vente. C'est bien que la lutte contre les inégalités est au cœur de l'éducation nationale, selon vous, et que, au nom de la lutte contre les inégalités, c'est la haute culture elle-même qui est combattue. J'ai bien compris.
Oui, c'est ce que j'ai
dit. Ce que vous dites.
Alors, combattu, c'est peut-être un mot fort, mais il y a un hiatus, quoi, entre les deux. Et il est vrai que les actions citoyennes sont, en tout cas, dans mon lycée, omniprésentes.
Enfin, c'est... Ah, quand même.
Ah oui, complètement.
Alors, dites-moi un peu.
Je vais me faire taper dessus, mais bon, par exemple, quand il y a une exposition au CDI, là, en ce moment, je crois que c'est sur la notion de frontière, vous imaginez qu'elle passe à ça le quart d'heure dans l'expo. Tout est toujours comme ça, développement durable, atelier féministe. Bon, dans les programmes, par exemple, en français pour le bac, il y a Olympe de Gouges dans la catégorie texte de réflexion. Alors il y a La Bruyère, Rabelais et Olympe de Gouges. Bon, la moitié des collègues étudient Olympe de Gouges, qui littérairement n'a pas d'intérêt. Enfin, à mon sens, c'est une petite plaquette de 15 pages. Bon, c'est peut-être très bien, hein. Je l'ai lu, c'est pas mal, mais enfin bon... Et vous voyez comment l'idéologie fait qu'on remplace, au fond, des grands textes possibles à donner aux élèves par un texte, certes estimable, mais qui n'est pas de la grande littérature.
Et cette idéologie est-elle présente au collège? Par exemple, l'écologie, je dis pas qu'elle est idéologique, mais cette façon... à le ministère de l'Éducation nationale de vouloir que la sensibilité écologique soit représentée dans toutes les matières. Et est-ce que ça affecte votre enseignement?
On en est un peu sorti, ça aussi.
Ah bon?
Enfin, ouais, ça aussi, on est retombé sur quelque chose de plus raisonnable. Mais par exemple, pour l'histoire de la statue, ça m'a passionné, votre histoire de statue Khmer. Parce qu'en plus, en ce moment, avec mes élèves, on est en train de travailler sur les frises du Parthénon. Justement, et de tous les débats. Et là, typique, quand même, dans cette histoire, dans votre roman, il n'y a pas un prof pour sauver l'autre. Il met de l'idéologie partout. Mais dans le fond, cette histoire de statut, ça pourrait être génial dans un établissement. Ça pourrait, je sais pas, il pourrait avoir des débats, des questions, rien n'est évident. Et c'est formidable, de même, quand vous dites que on conseille aux professeurs de travailler la focalisation en lettres avec le match de foot. Ben, je sais pas, on pourrait écrire un livre qui s'appellerait L'angoisse du gardien de but au moment du pénalty, ou je sais pas, quelque chose.
Ça serait complètement faux, parce que s'il y a une angoisse, c'est celle du tireur.
Ben
ça,
voilà.
Je peux vous dire.
Voilà.
L'angoisse du gardien de but, c'est un mensonge. D'ailleurs, on l'a bien vu pendant la Coupe du Monde. Moi, je me souviens du joueur espagnol, Sarabia, d'ailleurs, ils ont perdu, je crois, au tir au but. Il s'est avancé vers le ballon. Il était accablé de tristesse. Et j'ai compris qu'il ne marquerait pas.
Mais oui.
Donc, il y aurait quelque chose à écrire sur cette angoisse-là. Mais c'est pas la peine d'emmener les élèves voir des matchs de foot plutôt que de les laisser entre les murs de la classe. Ça, vous seriez d'accord, quand même.
Bon, pourquoi pas. Enfin, s'il faut faire un détour par le match de foot pour arriver au rouge et le noir, je crois pas que vous seriez contre, quand même.
Non.
Ben voilà.
Non, bah, enfin, non, je pense pas, mais enfin, là, je serais pas d'accord. Mais... Non, de toute façon, la question des points de vue n'est pas très très intéressante, je trouve, que pour étudier un texte. Déjà, elle est pas essentielle. On peut la traiter en quelques minutes avec des textes. Et là, quand l'inspecteur dit qu'il faut aller au stade voir des matchs, oui, c'est toujours l'idée que ce sera toujours mieux en dehors
toujours
de
mieux,
l'école,
en dehors, oui,
plus vivant, la classe étant un lieu un peu poussiéreux, c'est-à-dire ce qu'il dit.
Enfermé, oui.
Enfermé.
Oui. Alors là, une question, car le temps commence à nous presser. Une question d'actualité. Madame Brigitte Macron a proposé que les élèves aillent en classe et portent en classe un uniforme. Alors ma question, que pensez-vous de cette proposition? Et question subsidiaire, comment sont habillés les élèves aujourd'hui? Mara Goyet.
Alors d'abord, je trouve cette question complètement à côté de la plaque et dérisoire. Il y aura un uniforme, ça ne me gênerait pas, il n'y en a pas, ça ne me gêne pas. Vraiment, c'est comme un os qu'on nous jette à ronger et on cavale tous dessus comme des klebs. Je trouve ça complètement dérisoire. C'est comme si on avait parlé de la texture des serviettes éponges à l'hôpital pendant le Covid. C'est vraiment, on n'en est pas là. Et je crois que... On peut être d'accord sur l'uniforme avec le sweat à capuche.
Oui, oui, ils ont un uniforme qui est le sweat à capuche.
Voilà, c'est ça qui est extraordinaire. On lutte contre
les baskets,
au nom de l'uniformité.
Et qui est unisexe.
Voilà.
Et je regardais d'ailleurs dans ma classe l'autre jour, je disais, les garçons et les filles sont habillés exactement de la même façon.
Oui, mais alors, je pense que c'est, on défend contre l'uniforme, l'uniformité du sweat à capuche, du jean, etc. Et puis, il y a aussi autre chose. Il y a le problème des abayas, des camises, du voile, etc. Et ça, c'est la question, c'est comment y réagir. Vous parlez des conséquences de l'assassinat, de la décapitation de Samuel Paty. Les professeurs sont-ils prêts à faire quelque chose, ou plutôt prêts, disons, au compromis, voire aux compromissions?
Je crois qu'il y a une période de sidération dont on n'est pas sorti. Après, en effet, l'attentat islamiste contre Samuel Paty, où on a peur et on a raison d'avoir peur. C'est-à-dire qu'un propos peut sortir de son contexte. Voilà, c'est des raisons d'avoir peur. La laïcité, par exemple, est devenue maintenant une sorte de discipline que l'on refile aux professeurs d'histoire-géographie. Enfin, ouais, on n'est pas à l'aise, on n'est pas à l'aise. Non, mais le problème des abayas, c'est d'obliger l'école à scruter des robes pendant 20 minutes pour savoir si elles ont une ceinture ou pas. Donc le problème, c'est comment on en est arrivé, enfin, on le sait, mais à ce qu'il y ait des provocations contre la laïcité. Et là, je pense que, pour le coup, on a un vrai, vrai travail à faire. Et c'est pas simple.
Un travail de quoi?
D'explicitation. Par exemple, ça aussi, ça suppose des détours. Vous expliquez que l'école non laïque, c'est une école dans laquelle on peut plus parler des dinosaures, par exemple. Ça, c'est un sujet qui ne fâche personne, les dinosaures. En tout cas, en France, pour l'instant. Vous l'expliquez, mais voilà, dans les textes religieux, il n'y a pas de dinosaures, il n'y a pas... est-ce que vous imaginez une école dans laquelle on ne parle pas des dinosaures? Et là, les élèves... comprennent complètement. De même, c'est là aussi où la culture est forte. C'est par exemple pour parler des images de Charlie Hebdo. Juste avant, je parle des querelles iconoclastes à Byzance. Et ça, voilà, c'est des détours qui marchent.
Oui, c'est des détours qui marchent.
Mais qui ne marchent pas toujours, hein, je ne suis pas vaillante.
Oui, qui ne marchent pas toujours. Et puis, il y a aussi un discours quand même assez présent. très bien représenté notamment par Emmanuel Todd dans son livre « Qui est Charlie ?», des millions de Français se sont précipités dans les rues le 11 janvier pour définir comme besoin prioritaire de leur société le droit de cracher sur la religion des faibles.
Mais c'est ignoble.
Oui, mais voilà c'est quand même des choses à quoi on est confronté aujourd'hui.
Énormément, et oui. Par exemple, après l'assassinat de Samuel Paty, passé le choc, on est entré dans la passion du débat sur « oui, mais peut-être qu'il aurait dû faire ça comme course ». Là, il y a un manque de décence totale. Et c'est aussi la passion du débat de dire « oui, qu'est-ce qu'un bon cours sur la laïcité ?» Comme si un cours pas parfait, mettons, devait mener à la mort. Et là, il y a vraiment une perte de repères, mais qui est collective. Et ça, je suis consternée et dégoûtée par ça.
Oui, je suis d'accord. Il n'y avait pas de débat à avoir sur...
Il y en a eu au lycée, par exemple ?
Oui, bien sûr. Les professeurs disent « oui, mais bon, il aurait peut-être dû faire autrement. Il a quand même montré des images. » Je ne sais plus exactement, parce que c'était il y a 2 ans. Mais il y avait oui. Et oui, c'est ça, c'était il y a 2 ans. Hein. Mais quand je discute avec les élèves de ça, parce qu'on a forcément, on est toujours amené. Par exemple, si je parle de Flaubert, du procès de Madame Bovary, où on en vient à parler de Charlie Hebdo, des caricatures, je trouve, alors je ne sais pas encore cette fois, c'est mon expérience, que les élèves sont plutôt assez pour la censure. Enfin, ils sont contre Charlie Hebdo et. Enfin, il ne faut pas blesser la sensibilité
ça revient
des croyants.
Il ne faut pas blesser.
Les adultes pensent pareil.
Bon.
Pas moi.
Non, moi non plus.
Vous ne pensez pas cela. Il y a du travail. Merci beaucoup. Mara Goyet, Patrice Jean. Mara Goyet, je rappelle le titre de votre livre. Finir prof, peut-on se réconcilier avec le collège? Il est publié chez Robert Laffont. Patrice Jean, Rééducation nationale. Ce roman paraît aux éditions Rue Fromentin. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration de Corinne Amard, à la réalisation de François Connac, à la technique aujourd'hui, Michael Simon, Thibaut Nassimben. L'émission de la semaine prochaine aura pour titre Évocation de Bergson. Mes invités seront Michel Laval et Camille Riquet. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannelet.